Saint-Valentin, que tu as des relations sexuelles. C'est pas ta faute si le destin te refuse les clés pour le septième ciel.
C'est pas ta faute, toi, la Saint-Valentin, que tu as des relations sexuelles. C'est pas ta faute si le destin.
Lundi 23 janvier, il est 16h, nous avons 8 degrés au centre-ville de Victoria. Merci d'écouter l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS-FM 107,9 dans la grande région de Victoria. C'est Alexis Gagnon au micro. Bon début de semaine à tous. Nous allons entamer l'émission comme à l'habitude avec les deux bulletins d'information de notre collaborateur Denis Lépine. Nous aurons ensuite le Radio-Journal des Nations Unies et les nouvelles provinciale, entre autres. Et en fin d'émission, vers 16h45, c'est la chronique judiciaire de Pinder Shima qui nous renseigne aujourd'hui sur la façon de porter plainte contre un avocat. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Le Canada travaille en collaboration avec des autorités fiscales partout dans le monde pour cibler et démasquer les structures qui servent l'évitement fiscal non seulement au Canada, mais à l'échelle mondiale. C'est ce qu'a déclaré Diane Leboutillier, ministre du Revenu national. Le ministère du Revenu a fait savoir que dans le cadre d'une récente réunion, le Centre d'information conjoint sur les abris fiscaux internationaux a abordé le dossier des documents Panama. Le ministère a indiqué qu'au Canada, plus de 76 vérifications de contribuables sont en cours en lien à ce dossier. De plus, eh bien, des mandats de perquisition ont été exécutés et plusieurs enquêtes criminelles sont en cours. Ouverture aujourd'hui de la 11e édition du Congrès national en développement de carrière Canexus à Ottawa. Plus de 900 professionnels du développement de carrière sont sur place pour l'événement de 3 jours. Ils discuteront des plus récentes recherches et vont approfondir les sujets de l'heure dans le domaine. Plusieurs conférenciers prendront la parole. Il sera question également de faire le lancement de la nouvelle publication du CERIC intitulée « Fidéliser et mobiliser la gestion de carrière dans les petites entreprises ». Le premier ministre Justin Trudeau a fait une déclaration dimanche lors du premier anniversaire de la fusillade de Laloche en Saskatchewan. Il a rappelé que 4 personnes avaient été tuées et 7 autres blessées à la suite d'un geste insensé. Il a ajouté qu'en ce tragique anniversaire, nos pensées accompagnent les victimes, leurs proches et tous ceux et celles dont la vie a été changée de près comme de loin. Il a également dit que les gens de Laloche ont inspiré le Canada entier par leur espoir en un avenir meilleur. Le Bureau de la concurrence du Canada a déclaré avoir pris des mesures pour rétablir la concurrence dans la vente au détail des livres numériques au Canada. Le commissaire à la concurrence a félicité Apple, mais aussi les éditeurs Hachette, Macmillan et Simons & Schuster pour avoir signé des ententes pour éliminer ces préoccupations quant à leur comportement dans le marché des livres numériques. Le bureau a indiqué dans un communiqué que grâce à ces consentements, eh bien, les détaillants canadiens pourront offrir des rabais sur des livres numériques publiés par ces éditeurs. Retraite du premier ministre Trudeau et de son cabinet aujourd'hui et demain à Calgary. Le choix de Calgary est intéressant compte tenu des difficultés des libéraux dans cette province depuis plus de 40 ans. Les libéraux avaient tout de même remporté 2 sièges à Calgary en 2015. Il s'agissait des premières victoires libérales dans la ville albertaine depuis près de 50 ans. Le gouvernement a fait savoir que le premier ministre et ses ministres aborderont une foule de sujets d'ici mardi, notamment l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et le premier ministre Justin Trudeau a félicité justement le président américain Trump sur son investiture. Le bureau du premier ministre a confirmé que les deux hommes se sont parlé par téléphone en fin de semaine. Justin Trudeau a souligné les relations économiques étroites entre le Canada et une 30aine d'États. Le bureau a aussi souligné que les deux hommes envisagent maintenant de se rencontrer prochainement. Ottawa lance une consultation publique sur la nouvelle règle pour améliorer la salubrité des aliments. Selon le gouvernement, le projet de règlement sur la salubrité des aliments au Canada offrirait une protection accrue aux familles canadiennes en mettant l'accent sur la prévention des risques pour la salubrité des aliments apportés au pays ou des aliments faisant l'objet d'un commerce interprovincial. La consultation menée sur 90 jours prendra fin le 21 avril. Le projet regroupe 14 règlements existants. Pamela Goldsmith-Jones est en Norvège aujourd'hui. La secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères du Canada participe jusqu'à mercredi à la conférence International Arctic Frontier à Tromsø et à une réunion bilatérale à Oslo. La conférence réunit des représentants d'universités, de gouvernements. Le thème de cette année est « Espace blanc, avenir bleu ». Au sport, dans la NFL, bien présentation dimanche des finales de conférence. Dans l'américaine, la Nouvelle-Angleterre a vaincu Pittsburgh 36-17. Pendant ce temps, bien dans la nationale, Atlanta a eu raison de Green Bay 44-21. C'est donc dire que dans deux semaines à Houston, lors du Super Bowl 51, la Nouvelle-Angleterre affrontera Atlanta. Il s'agira d'un septième voyage au Super Bowl pour Tom Brady. Au hockey maintenant, bien Chicago a eu raison de Vancouver 4-2 et Columbus 7, Ottawa 6. Ce soir, entre autres, Calgary sera à Toronto et Anaheim à Winnipeg. NBA revers de Toronto 115-103 aux mains de Phoenix. Et au tennis, aux internationaux d'Australie, alors que Novak Djokovic et Andy Murray ont été éliminés au cours du week-end, voilà que Roger Federer sera des quarts de finale. L'ancien numéro 1 mondial a vaincu le cinquième favori, le japonais Kai Nishikori.
Bienvenue dans le débrief à 16h06. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Quelques mots sur la météo avant de se rendre au Radio-Journal des Nations Unies. On a actuellement 8 degrés à l'aéroport de Victoria. Ça va se refroidir en cours de soirée, descendre à 1 degré. Ça reste assez dégagé. Il y aura un ennuagement en cours de nuit. Demain, c'est un mélange soleil-nuage avec un maximum de 6 et un ennuagement encore une fois en fin de journée et une probabilité d'averse de 30%. Pour mercredi 25 janvier, jeudi 26 janvier et vendredi 27 janvier, ce sont des nuages au-dessus de Victoria, du moins si l'on en croit les prévisions d'Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca, avec un mercure qui oscillera entre 6 degrés et 7 degrés. Donc voilà, on y reviendra en fin d'émission. En attendant, on se rend tout de suite au Radio-Journal des Nations Unies. On se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal radio d'ONU Info, avec en titre « L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie plaide pour une consolidation du cessez-le-feu ». Antonio Guterres salue le rétablissement de la démocratie en Gambie, ouverture du conseil exécutif de l'OMS à Genève et en dossier les inquiétudes de l'UNICEF suite à l'intensification des combats à Deir ez-Zor en Syrie. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie est intervenu ce lundi à la conférence d'Astana à laquelle il a été convié par les organisateurs, à savoir la Russie et la Turquie. À cette occasion, Safan de Mistura s'est inquiété des fortes tensions qui persistent dans la région de Wadi Barada, coupant plus de 5 millions de personnes d'accès à l'eau courante. Il a toutefois constaté que la violence avait baissé en Syrie, ajoutant que beaucoup d'espoir a été placé dans le cessez-le-feu négocié par la Russie et la Turquie avec l'appui de l'Iran. Le point avec Christina Silvero.
Dans la capitale kazakh, Safan de Mistura a affirmé que les chances de réussite du cessez-le-feu en Syrie seront d'autant plus grandes si les parties parviennent à s'accorder sur un mécanisme de suivi et de mise en œuvre à l'échelle nationale. L'envoyé spécial de l'ONU a fait observer qu'un tel mécanisme de suivi n'a jamais existé dans le passé, raison pour laquelle tant de cessez-le-feu ont échoué. Il a aussi argué qu'une consolidation du cessez-le-feu permettra aux Syriens et à la communauté internationale de renforcer leur efficacité dans la lutte contre les groupes désignés comme terroristes par le Conseil de sécurité. Pour Safane de Mistura, si la conférence d'Astana est un succès, l'ONU aura une meilleure chance de relancer des négociations intra-syriennes effectives. À cet égard, l'organisation compte convoquer des négociations directes et si possible officielles dès que possible à Genève afin de trouver une solution politique et répondre aux questions centrales du conflit.
Retour sur la situation en Gambie. Ce week-end, le secrétaire général de l'ONU a félicité les dirigeants africains pour leur réussite dans le rétablissement de la démocratie dans le pays. Suite aux efforts de médiation menés dernièrement par le président mauritanien Mohamedou Abdel Aziz et le président guinéen Alpha Condé, l'ancien président gambien Yahya Jammeh a décidé de faciliter un processus de transition pacifique et ordonné immédiat et de transférer le pouvoir au nouveau président du pays, Adama Barrow. Jérôme Longuet.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a félicité samedi soir les dirigeants africains pour le rétablissement de la démocratie en Gambie. Résolu à parvenir à un règlement pacifique de la situation politique en Gambie, la CDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et les Nations Unies ont salué dans une déclaration publiée le même jour la bonne volonté et le sens de l'État de l'ancien président Jammeh. La CDEAO, l'UA et l'ONU se sont engagés à travailler avec le gouvernement gambien pour s'assurer qu'aucune mesure législative ne soit prise à l'encontre de l'ancien président Jammeh et de son entourage. La déclaration indique qu'afin d'aider à la transition pacifique et ordonnée, au transfert du pouvoir et à la création de nouveaux gouvernements, l'ancien président Jammeh quittera temporairement la Gambie sans porter préjudice à ses droits de citoyen et de chef de parti politique. Enfin, la déclaration indique que la CDEAO mettra un terme à toute opération militaire en Gambie et continuera de rechercher un règlement pacifique et politique de la crise.
Et maintenant que la situation politique gambienne semble se normaliser, la question est de savoir quand les personnes qui avaient fui le pays par mesure de précaution décideront de rentrer. Environ 45 000 s'étaient rendus au Sénégal, mais des mouvements de population avaient aussi pour destination la Guinée-Bissau, où près de 4 300 personnes ont trouvé refuge. Le représentant humanitaire par intérim de l'ONU en Guinée-Bissau s'est récemment rendu dans les zones frontalières pour y évaluer la situation. On écoute Aigan Kossi.
Pour le moment, il n'y a pas encore de retour. Donc, celles qui sont là sont restées et elles attendent tous de voir le jour à venir si des mouvements sont annoncés. Ils pourraient également aussi envisager de retourner. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des Bissau-Guinéens qui vivaient en Gambie pendant de longues années et qui sont revenus. De l'autre côté, il y a également des Gambiens, certains qui se sont directement rendu à l'ambassade de Gambie en Guinée-Bissau. En tout, je crois que les populations qui viennent sont majoritairement des Bissau-Guinéens, qui, pour ceux qui en ont encore, se sont rendus dans la famille d'accueil.
La 140e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé a commencé ce lundi à Genève. À l'ouverture de la session, la directrice générale de l'OMS a passé en revue tout un éventail de questions liées à la santé, appelant notamment les États à suivre de près toute irruption de grippe aviaire. Elle s'est aussi inquiétée de l'impact du prix élevé des fournitures médicales sur le creusement des inégalités en termes d'accès à la santé. Margaret Chan est aussi revenue sur l'importance de la lutte contre le tabac. On l'écoute.
Smoking cause
le tabagisme coûte plus de 1 000 milliards de dollars par an à l'économie mondiale et tuera bientôt plus de 6 millions de personnes dans le monde chaque année. Les pertes économiques provoquées par le tabagisme dépassent les recettes globales provenant des taxes sur le tabac estimées à près de 270 milliards de dollars en 2013-2014. Si tous les pays augmentaient les taxes sur les cigarettes d'environ 80 cents par paquet, les recettes fiscale annuelle pourrait augmenter de 47%, soit 140 milliards de dollars de plus par an. La conclusion générale est très nette. La lutte contre le tabagisme est judicieuse d'un point de vue économique et ne nuit pas aux économies. Les preuves sont nombreuses et convaincantes. Elles devraient mettre fin à un des arguments les plus fréquents et les plus efficaces de l'industrie du tabac.
« Retour sur l'actualité en Syrie où les combats s'intensifient dans la ville de Deir ez-Zor qui est déjà assiégée depuis plus de 2 ans. L'aéroport de la ville est à présent passé sous le contrôle de Daesh et les humanitaires ont dû suspendre des opérations de largage de l'aide. L'UNICEF s'inquiète du sort des quelques 93 000 habitants de la ville. Pour en savoir plus, Christina Silvero a joint Geneviève Boutin, responsable de la réponse d'urgence d'UNICEF au Moyen-Orient.
Il y a eu intensification des conflits qui a mené notamment la partie assiégée de Deir ez-Zor à être divisée en deux, séparant l'aéroport du reste de la ville et aussi faisant en sorte que la partie dans laquelle on arrivait à déposer des denrées à travers le pont aérien a été saisie par les combattants de Daesh, ce qui veut dire que le peu d'accès humanitaire qu'on avait à cette ville qui est assiégée depuis près de 2 ans est maintenant suspendu. Dans cette ville, on estime qu'il y a à peu près 93 000 personnes qui y vivent, dont la moitié sont des enfants, qui ont eu accès à très, très peu de services depuis 2 ans parce que ça fait, comme je vous dis, longtemps qu'ils sont assiégés et que le ravitaillement de la ville se fait véritablement au compte-gouttes. Nos sources dans la ville nous disent que le prix des denrées qui sont disponibles est de 5 à 10 fois plus élevé que dans la capitale Damas, ce qui veut dire que les familles les plus vulnérables doivent certainement avoir même de la difficulté à pallier aux besoins de base de leurs enfants.
Vous dites donc que la ville est assiégée depuis 2 ans, que la situation s'empire donc avec l'intensification des combats et la coupure de l'aéroport. Est-ce que vous avez des contacts avec les habitants de Deir ez-Zor et qui peuvent vous décrire les conditions dans lesquelles ils habitent?
Oui, nous avons des sources à l'intérieur de la ville qui sont soit des techniciens des différents organismes gouvernementaux techniques avec lesquels on travaille depuis longtemps ou qui sont des individus avec lesquels on a contact. Évidemment, tout ça, c'est difficile et ce n'est pas des observations de notre propre personnel, mais ce que les gens racontent, c'est qu'en effet, les magasins sont vides, les centres de santé sont vides de denrées et que les prix sont extrêmement élevés.
Que peut faire l'UNICEF ou que fait l'UNICEF face à cette situation?
Nous nous préparons évidemment avec les autres agences, notamment le Programme alimentaire mondial, à reprendre le pont aérien qui nous permettait de lancer des denrées à travers des vols à très haute altitude. Nous, par exemple, on est prêt maintenant à renvoyer beaucoup de biscuits énergétiques pour les enfants qui sont à haute intensité calorique pour aider les enfants à retrouver un bon statut nutritionnel. Mais surtout, c'est comme dans tous les autres cas des 15 villes qui sont assiégées en Syrie où se trouvent plus de 300 000 enfants au total. Ce qu'on demande, c'est que tous les partis au conflit arrêtent vraiment d'utiliser la tactique du siège qui n'a vraiment que comme seul effet de faire souffrir les populations civiles qui devraient pourtant être protégées pendant la guerre.
Alors, Deir ez-Zor est sous le point de basculer sous l'emprise de l'EIIL, c'est bien ça?
Je ne sais pas si c'est sur le point de basculer, je ne peux pas juger des capacités militaires des différentes parties, mais c'est une ville qui est certainement assiégée et qui avait réussi à survivre peut-être un petit peu mieux que les autres villes assiégées, étant donné que le gouvernement avait toujours sous son contrôle un aéroport qui lui permettait de ravitailler la ville un tant soit peu. Maintenant que cet aéroport est coupé du reste de la ville, on ne peut supposer que le pire pour les populations civiles.
Et c'est avec Geneviève Boutin que se referme ce journal radio d'ONU Info, une édition à retrouver sur l'Internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
En direct en ce lundi 23 janvier ou encore en rediffusion dans la matinée du mardi 24, vous écoutez Le Débrief. Merci d'être avec nous à 16h16. Nous passons à présent aux nouvelles provinciales, en commençant par une nouvelle qui concerne bien sûr la Colombie-Britannique au premier chef, mais aussi l'ensemble du pays. C'est une nouvelle que nous rapporte le portail de la CBC aujourd'hui. Une nouvelle qui concerne la crise des surdoses en Colombie-Britannique et à l'échelle du pays. La ministre de la Santé fédérale, Jane Philpott, a annoncé son intention d'apposer des avertissements sur les antidouleurs qui sont prescrits dans le système de santé à l'échelle du pays. Donc, ces avertissements qui auront un petit peu l'aspect des avertissements qu'on retrouve, par exemple, sur les paquets de cigarettes depuis plusieurs années, auront pour but de tempérer l'acuité de la crise des surdoses partout au Canada et en Colombie-Britannique, bien sûr, où la crise est particulièrement aiguë. Donc, cette mesure devrait entrer en vigueur prochainement. C'est du moins ce qu'elle a déclaré, donc, la ministre Jane Philpott à l'agence Reuters. Il y aura aussi un comité qui débutera ses travaux prochainement, nous rapporte ce même article de CBC, un comité consultatif qui prendra justement la pleine mesure de la crise actuelle et tentera de définir justement des solutions. Ça voudra dire, par exemple, ces avertissements, mais d'autres mesures également qui seront décidées ou suggérées, recommandées au gouvernement par ce comité. Donc, cet article paraît sur le portail de la CBC aujourd'hui, 23 janvier. On se transporte dans les colonnes du média Canoë qui nous renseigne sur le coût de la vie dans les villes à l'échelle mondiale à l'issue de publication de données sur le coût de la vie et c'est en effet Vancouver, sans grande surprise, qui est en tête de peloton, ou presque. Elle est la troisième ville la plus inabordable au monde, nous rapporte cet article du portail Canoë. Aux prises avec un marché de l'habitation qui connaît une hausse des prix galopante, Vancouver, en Colombie-Britannique, est parvenu à se hisser au peu enviable troisième rang des villes les plus inabordables au monde en 2016, selon l'étude annuelle du site Demographia. Pour comparer les villes entre elles, l'urbaniste Wendell Cox a divisé le coût médian des maisons avec le revenu médian des ménages. Du côté de Vancouver, le prix médian a atteint 11,8 fois le revenu médian des ménages au cours de la dernière année. Un couple devrait donc dépenser tout près de 12 ans en salaire, sans rien acheter d'autre, pour couvrir le prix d'une maison, en imaginant que ce couple obtienne un taux hypothécaire de 0%. Donc, ça vous donne une idée de la difficulté de l'accès à la propriété dans la ville de Vancouver. Montrant, elle aussi, des signes de surchauffe, poursuit cet article, la région de Toronto affiche un ratio, quant à elle, de 7,7. En hausse d'un point sur l'année 2016, donc la ville de Montréal affiche également des signes de surchauffe, bien que plus timide que ceux constatés du côté de Toronto. Et l'article est très informatif et nous renseigne aussi sur la ville de Hong Kong qui arrive bien sûr première avec un ratio de 18,1. C'est suivi de Sydney en Australie, qui obtient, elle, un ratio semblable à celui de Vancouver, de 12,2. Alors, il y avait 92 agglomérations dans cette étude, des villes de plus d'un million d'habitants qui ont été prises en considération, donc qui ont fait l'objet d'un coup de sonde sur le coût de la vie et l'accès à la propriété. Donc, c'est dans le portail Canoë, Vancouver, troisième ville la plus inabordable, oui, au monde. Et du côté du magazine Conseiller, un magazine qui se destine aux conseillers financiers francophones, un article sur Trump et les effets de la présidence Trump. Donc, ça concerne bien sûr la Colombie-Britannique, mais aussi l'ensemble du pays. On constate une explosion de l'intérêt des Américains envers l'immobilier canadien depuis l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis, montrent les plus récentes données de la firme Royal LePage. Les cessions ouvertes par des Américains sur le site web de la firme ont augmenté de 329% au lendemain de la victoire du candidat républicain. Dans la semaine qui a suivi ce coup de tonnerre politique, les demandes d'informations ont été beaucoup plus élevées, en hausse de 210% que pour la même semaine en 2015. Simple passade ou tendance lourde? C'est la question que pose le magazine. Ce regain d'intérêt, écrit la rédaction du magazine, devrait se maintenir si l'on se fie aux répondants à une enquête nationale menée auprès de 1226 professionnels de l'immobilier de Royal Lepage du 12 au 17 janvier. Donc une tendance lourde, croit cette firme, à l'issue d'une étude menée au cours du dernier mois. Autrement, dans le portail de Radio-Canada, Radio-Canada nous rappelle que depuis aujourd'hui, lundi 23 janvier, il est maintenant autorisé en Colombie-Britannique, dans tous les commerces, de servir de l'alcool. Oui, vous avez bien entendu, il est possible dans tous les commerces de Colombie-Britannique de servir de l'alcool. Il faut pour cela, au préalable, se procurer un permis. Et la seule exception concerne les commerces qui sont des commerces itinérants ou ambulants, si vous préférez, ou encore les commerces dont les produits sont destinés aux enfants. Alors, cette nouvelle mesure, peut-on lire sur le portail de Radio-Canada, entre dans le cadre d'une réforme amorcée il y a 3 ans par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Il s'agit, selon les autorités, d'une mesure qui vise à créer de nouvelles opportunités dans le domaine des spiritueux dans la province. Des permis pourront désormais être délivrés à tous les commerces qui en font la demande. De l'alcool sera donc servi partout, même dans les endroits les plus inhabituels, comme les salons de coiffure et de soins, les librairies, les écoles de cuisine et même les galeries d'art. Donc une nouvelle mesure qui entre en vigueur aujourd'hui en Colombie-Britannique. Du côté du Vancouver Sun, le journal paraissant à Vancouver, on nous rapporte cette manifestation anti-Ku Klux Klan qui s'est tenue en réaction à de la distribution de propagande haineuse dans la région de Abbotsford. Donc une manifestation réunissant 200 personnes, nous rapporte le Vancouver Sun, s'est tenue il y a quelques jours pour dénoncer la distribution de matériel haineux qui avait été faite le jour de l'anniversaire de Martin Luther King. Rappelez-vous, on en avait glissé quelques mots dans le débrief. Donc, cette distribution de propagande haineuse avait causé une commotion. Elle avait été rapportée dans tous les médias de la province. Et donc, cette manifestation visait à manifester, oui, à communiquer le sentiment de désapprobation de la communauté d'Abbotsford. Il a réuni cette manifestation a réuni 200 personnes, nous dit le Vancouver Sun. Autrement, dans le portail du média indépendant de Taï, un média qui est ici sur l'île de Vancouver et qui a un rayonnement national, on en apprend davantage, ou plutôt c'est un topo, une mise à jour sur le conflit qui s'est vit sur l'île de Texada entre l'île de Vancouver et le continent. Donc c'est en face de Powell River. Donc De Tailly nous rapporte ce lockout dans une carrière de la transnationale Lafarge. Donc une carrière qui est exploitée sur l'île de Texada qui est en lockout. Donc il y a un conflit de travail dans cette exploitation et ça affecte 70 familles sur cette petite île qui a une population de 1200 personnes seulement. Alors, toutes les familles sont concernées. Il y a beaucoup de divisions en raison de ce conflit de travail, puisque certains des travailleurs sont syndiqués et d'autres pas. Alors, les employés syndiqués sont en lockout, c'est-à-dire qu'ils sont empêchés de se rendre sur les lieux du travail par l'employeur. Et cela s'est produit suite aux échecs des négociations en octobre dernier. Donc ça fait plus de 14 semaines, nous rapporte De Tailly, que cette exploitation de l'île de Texada, donc une carrière opérée par la multinationale Lafarge, ça fait plus de 14 semaines que ce conflit se poursuit. Et disons à propos de Lafarge qu'ils sont présents ici à Victoria. Si vous passez du près du Bay Bridge, le pont B. Vous voyez tous les jours donc l'exploitation de la farge ici localement dans la région de Victoria. Et en terminant ce bloc provincial et local, signalons un fait divers qui nous arrive de Nelson, dans l'intérieur de la province, à proximité de l'Alberta, grosso modo, dans le sud-est de la province. On nous rapporte qu'une skieuse pourtant expérimentée a malheureusement perdu la vie dans une avalanche il y a quelques jours. Donc c'est près de la ville de Nelson. Elle était accompagnée de deux autres skieurs qui ont eu, eux, la vie sauve. Les trois skieurs étaient expérimentés et ils ont été surpris par l'avalanche malgré leur préparation et leur expérience. Et l'article mentionne que les skieurs étaient équipés de coussins gonflables leur permettant de maximiser leurs chances de survie, donc qui leur permettent de flotter sur la neige qui dévale la pente. Mais en dépit de tout cela, on a malheureusement déploré une perte de vie, celle d'une dame originaire d'Anchorage en Alaska. Donc c'est dans la presse canadienne, du côté anglophone de la presse canadienne. On s'arrête quelques instants en musique, on va écouter une pièce restante, de Yann Perrault dans le débrief. Il est 16h27. On se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles du jour.
T'es la plus belle chose qui me soit arrivée. Une chance que la vie m'a donnée. L'équilibre et l'indépendance que j'aime. La clairvoyance dans mon poème. Depuis toi, j'ai du fun à jouer le jeu. Belle éclaircie dans mes yeux. T'es un éclair dans mon sang génie. Le roc en dessous de ma folie t'embellit ma vie. T'embellit ma vie. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée. Mon harmonie inespérée. J'avais jamais connu un phénomène pareil. Un lever de soleil avant le soleil. T'es une envoyée des dieux. Ma vision du grand bleu. Un ciel sans nuages. Une cathédrale. Au vent doux sous les étoiles. Adose mon apothéose, mon grand fly. 9 ans pis je suis encore ben high. T'embellis ma vie. T'embellis ma vie. Comme on n'en voit plus. T'es une révolution dans mon décor. Tu changes le plomb en or. By the way, les pompiers sont venus. On a le ok, tout est beau. On peut brûler d'amour, oh yeah. La terre est fertile, y a des framboises, y a des bouleaux. La rivière est bonne, viens donc baigner tout nu. Fire mon âme, love mon cœur. Fire
Marie, ma douceur, t'embellis ma vie.
Yann Perrault dans le débrief à 16h30. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9 en direct ou en rediffusion dans la matinée du 24 janvier. Nous allons passer aux nouvelles du jour. J'ai aperçu sur Twitter il y a quelques instants à peine un article du Huffington Post signalant une de ces mesures unilatérales prises par Donald Trump, la dernière en date. Il va multiplier les décrets présidentiels au cours des prochains jours. C'est la promesse qu'il avait formulée. Il y en aurait plus de 200 à venir. Et celui que signale le Huffington Post, justement, c'est un décret anti-avortement, oui. Et le site Huffington Post signale qu'il a été signé entouré d'hommes seulement, uniquement. Alors, ce décret empêche tout financement à des groupes qui font la promotion du planning parental, soit aux États-Unis ou encore sur la scène internationale. Donc, on y reviendra dans le débrief de demain, vraisemblablement. Pour le moment, intéressons-nous à l'une de ces autres décisions quelque peu unilatérales et définitives, sans appel, de Donald Trump, alors qu'il n'est en fonction que depuis 3 jours. On apprend à travers différents médias aujourd'hui que le président a décidé de retirer les États-Unis du TPP. Alors ça, c'est un accord de libre-échange, et je vous lis quelques lignes de l'article paru dans le journal La Tribune. La Tribune, c'est un média européen au service de la communauté des affaires, signé par 12 pays d'Asie-Pacifique en 2015, à l'exception de la Chine. Le traité TPP avait été âprement négocié pendant l'administration Obama. Durant sa campagne, Donald Trump avait dénoncé un accord terrible, selon lui, et promis de s'en retirer au plus vite. Le nouveau président américain Donald Trump a signé aujourd'hui, lundi, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, un document mettant fin à la participation des États-Unis au traité de libre-échange Transpacifique, le TPP. Voilà, donc ce traité, vu comme un contrepoids à l'influence grandissante de la Chine, a été signé en 2015 par 12 pays, Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, États-Unis et Vietnam. Donc un ensemble de 12 pays représentant 40% de l'économie mondiale. Donc voilà, Donald Trump signe la fin de ce traité sans appel. Alors, c'était une promesse de campagne, il faut le reconnaître. Alors, il n'a pas perdu de temps, c'est déjà chose faite. Donc, le TPP, un accord de libre-échange Asie-Pacifique qui, vraisemblablement, n'aura pas d'avenir sans la présence des États-Unis. Et du côté européen, on réagit bien sûr dans certains milieux, en tout cas les milieux financiers, avec consternation. Il y a la commissaire européenne au commerce qui a fait une déclaration. Je vous cite cette déclaration qui paraît dans le média La Libre Belgique. Donc la Libre Belgique, qui est très près des activités de l'Europe, puisque c'est à Bruxelles qu'est l'Europe, que siège l'Europe. La commissaire européenne au commerce, rapporte la Libre Belgique, Cecilia Malmström, a jugé lundi plus important que jamais l'accord de libre-échange signé par l'Union européenne avec le Canada, le CETA, face au protectionnisme prôné par le gouvernement américain de Donald Trump. Nous avons un ami et un allié important qui semble, au moins partiellement, se désengager de la scène internationale et qui promeut moins de commerce et plus de protectionnisme, a-t-elle relevé à propos de Donald Trump. Il est plus important que jamais, a-t-elle dit, que ceux d'entre nous qui croient que le commerce peut être important restent solidaires. Quel meilleur partenaire que le Canada pour montrer que ces accords commerciaux fonctionnent réellement. Alors, cette commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, s'exprimait à Bruxelles face aux eurodéputés de la Commission du commerce international du Parlement européen. Donc, le CETA, on en avait beaucoup parlé au cours de l'automne, puisqu'il avait causé beaucoup de dissensions. La Wallonie, cette petite région belge, avait pu obtenir des mesures dilatoires, avait gagné du temps puisqu'elle avait des récriminations à formuler contre cet accord. Alors, c'est un accord qui a beaucoup d'opposants, tant du côté gauche, du côté de la gauche que du celui de la droite. Alors, voilà, le protectionnisme de Donald Trump cause des réactions, bien sûr, à l'échelle internationale. Et il y aura peut-être un effet domino ou du moins des contre-coups sur d'autres accords, comme celui du CETA entre la communauté européenne et le Canada. On retourne dans le dossier de la Gambie. Vous vous souvenez, j'ai abordé le sujet avec mon collègue Adrien Blanc la semaine dernière dans l'édition de jeudi. On s'était penché sur le cas de ce petit pays enclavé dans le Sénégal, en Afrique. Un pays où la passation de pouvoir était particulièrement difficile suite à une élection qui s'était tenue au début du mois de décembre. Donc, pour assurer le service après-vente, si vous voulez, de cet entretien avec Adrien, on va aller aux dernières nouvelles de la Gambie. Alors, Yahya Jammeh, l'ancien dirigeant autoritaire de la Gambie, a quitté le pays le week-end dernier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il aurait toutefois volé des millions de dollars durant ses dernières semaines au pouvoir. Il aurait vidé les caisses de l'État et aurait expédié des véhicules de luxe par avion cargo. C'est ce qu'a déclaré le conseiller du nouveau président d'Adama, le nouveau président Adama Barrow, dans une interview qui était accordée au quotidien britannique The Guardian. Donc, ce conseiller de Barrow affirme qu'en l'espace de 2 semaines, 500 millions de dalasi, ce qui équivaut à 10,7 millions d'euros, ont été retirés par l'ancien président. Alors, c'est du vol, enfin, c'est une allégation de vol. La Gambie est en détresse financière, a dit ce conseiller du président, du nouveau président Barrow, dans l'article du Guardian. Alors, c'est rapporté dans le courrier international, si vous voulez avoir la version française, ou vous pouvez aller directement dans l'article de Guardian, sur les lendemains justement de la fuite de l'ancien président qui est maintenant en Guinée équatoriale à la suite d'une médiation pilotée par le président mauritanien et le président guinéen. Et sur le portail de RFI, il y a un bel article qui nous donne le topo en ce lundi 23 janvier. Qu'est-ce qui se passe en Gambie? C'est d'heure en heure, hein. On a vraiment des mises à jour sur RFI, Radio France Internationale, qui a toujours une base très importante en Afrique. En Gambie, le nouveau président Adama Barrow est toujours attendu, mais son retour au pays tarde. Il se trouve toujours à Dakar, au Sénégal, et son entourage affirme que les conditions de sécurité sont encore insuffisantes. 2 jours après le départ en exil de l'ex-président gambien, Yahya Jammeh. Alors, vous avez toutes les dernières infos sur le portail d'accueil de RFI. Vous trouverez aisément si le sujet vous intéresse. Je rappelle, en terminant, que la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a déployé une force de maintien de la paix. Donc, ce qui pourrait avoir l'effet souhaitable d'apaiser l'atmosphère dans ce petit pays. On y reviendra si nécessaire. C'est un sujet fascinant, puisque ça parle de démocratie et de volonté populaire. On y reviendra si nécessaire. Je vous mentionne aussi côté technologique cette nouvelle très rapidement qui paraît également dans le courrier international à propos de la firme Samsung, le fabricant d'appareils électroniques grand public, qui est revenu sur le problème de ses appareils Galaxy Note 7 qui explosait de façon inopinée et ont même causé des blessures dans certains cas. Donc le fabricant Samsung a rejeté la faute sur les fabricants de batteries. Si le sujet vous intéresse, c'est dans Courrier International, donc le bilan et le topo de Samsung à propos du scandale des appareils Galaxy Note 7. C'est dans Courrier International. Autrement, dans le portail de Radio-Canada, nous apprenons que Bernie Ecclestone n'est plus le grand patron de la Formule 1. C'est une figure emblématique de la Formule 1, fortement critiquée, souvent soupçonnée de corruption. Donc Bernie Ecclestone n'est plus à la tête de la Formule 1. Vous le savez sans doute, surtout si vous êtes originaire du Québec. Bernie Ecclestone, c'est une figure très critiquée qui fait la loi sur le circuit de la F1. Montréal, bien sûr, accueille un grand prix du circuit de la F1, c'est toujours aux environs du mois de mai ou du mois de juin, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est un magazine allemand spécialisé dans la course automobile qui en a fait la révélation. Ça a été repris par Reuters et vous trouverez la nouvelle notamment sur le portail de Radio-Canada. Une autre petite pause musicale avant d'aller à l'interview. Je vous propose d'écouter l'artiste Ariane Moffat et c'est une pièce qui s'intitule Petit Matin. On se retrouve dans quelques minutes pour les éditos et ensuite l'interview du jour.
Petit matin sans horizon, petit café fumé d'usine, je regarde le derrière des maisons, les femmes sont à leur cuisine, il y a des oiseaux qui se font la cour. Sur les fils du bel téléphone et dans l'œil crevé de ma cour, un 747 qui résonne, il pousse un gros transformateur au cœur de ce qui fut un chêne. Sur la vitre je trace un cœur que la buée retient à peine. Le transistor hurle à la mort, des airs à faire pendre un merle, les enfants s'amusent dehors, dans la slush un collier de perles, au hasard j'ouvre le journal, crime passionnel rue Lacordaire, paraît que ça va de plus en plus mal pour les mangeurs de pommes de terre. Paraît aussi que les présidents s'amusent à jouer à la roulette entre deux annonces à la page 100 avec ce qui reste de la planète. Je trouve cet air de ma grand-mère, et pour les mots, je mets le phono de mon petit matin solitaire. Dommage que ce soit si gris, j'aurais voulu dire autre chose, faudrait recommencer la vie avant de rechanter les roses.
Ariane, Ariane Moffat dans le débrief à 16h44. En fait, c'est une reprise d'une chanson de Sylvain Lelièvre qui interprète Ariane Moffat ici. Une chanson qui s'intitule Petit Matin. L'émission se poursuit. On va se rendre à l'interview dans quelques instants. J'ai le temps tout juste de vous signaler un édito. C'est celui qu'écrit Paul Journet dans les colonnes éditoriales du journal La Presse. Ça s'intitule Think Big N'importe Comment et ça parle de la course à la chefferie du Parti conservateur, donc la course à la succession de Stephen Harper qui n'est pas sans couac, on va dire. Donc Paul Journet dans La Presse écrit « La course à la direction du Parti conservateur importe le pire de la politique américaine, la provocation mensongère et l'État géré comme une entreprise. Nous en examinons le premier aspect aujourd'hui dans ce texte. » Alors, je n'aurai pas le temps de vous lire cette analyse de Paul Journet en entier. Je vous en lis quelques lignes seulement et ça concerne surtout Kevin O'Leary, cet homme d'affaires richissime qui vit à Boston, au Massachusetts, et qui s'imagine qu'il peut devenir premier ministre en disant à peu près n'importe quoi. Alors, c'est ce que Paul Journet souligne. Kevin O'Leary dit n'importe quoi, à part peut-être quand il avoue dire n'importe quoi. Mais encore là, c'est compliqué, car un menteur ment-il quand il dit qu'il ment? C'est à ce genre de fascinante considération philosophique que s'abaisse, grâce à lui, la course à la direction du Parti conservateur en ce moment. L'homme d'affaires et vedette de télé-réalité parle plus vite qu'il ne réfléchit. La semaine dernière, il a proposé à CTV de commercialiser le Sénat canadien. En échange d'un chèque de 100 000 ou 200 000 dollars, un Canadien pourrait s'acheter le droit de voter des lois. En plus d'être antidémocratique, c'est tout à fait anticonstitutionnel, lui a-t-on rappelé. Sa réaction, cela l'indiffère. Donc voilà, c'est un portrait de Kevin O'Leary, une espèce d'électron libre milliardaire ou multimillionnaire qui veut maintenant s'emparer de la direction du Parti conservateur. Rappelons que c'est le même Kevin O'Leary qui avait fait exprès d'annoncer sa candidature au lendemain du débat en français, une façon d'éviter ce grand oral en français auquel tous se sont soumis de bonne grâce et avec beaucoup de courage. Lui, lâchement, il a plutôt préféré jouer en touche et apparaître le lendemain dans sa conférence de presse pour signaler sa candidature. Donc voilà, c'est sous la plume de Paul Journet, je vous le disais, dans les pages éditoriales du journal La Presse. Et on se rend à la course à l'interview du jour. Pinder Shima, notre chroniqueuse judiciaire, nous parle aujourd'hui d'un sujet délicat, comment se débarrasser de son avocat, comment renvoyer l'avocat avec lequel on fait affaire. C'est dans quelques instants à l'antenne du débrief. Merci d'écouter CILS FM 107,9. Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief en fin de journée. C'est le moment de la chronique judiciaire de Pinder Shima. Bonjour Pinder.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Oui, très bien, merci.
Alors Pinder, tu es avocate, tu travailles au ministère de la Justice de la Colombie-Britannique et tu nous livres aujourd'hui une chronique sur la manière dont on peut porter plainte contre son propre avocat. C'est bien ça?
C'est ça, c'est ça.
Est-ce que ça arrive souvent que les gens portent plainte contre leur avocat, premièrement?
Ben, heureusement, non, ça n'arrive pas, ça arrive pas très souvent parce que on espère que en Colombie, les avocats sont bien formés, sont professionnels, sont agissent selon les règlements. Alors, ça n'arrive pas souvent, mais des fois, ça arrive. Et puis, il y a un système qui existe au barreau pour aider le public.
D'accord.
Est-ce, quels sont les cas de figure, les situations dans lesquelles un justiciable va porter plainte contre son avocat ou son avocate?
Tout client qui se sent, qui a des inquiétudes, des oui. préoccupations à propos le comportement de son avocat ou de l'avocat de l'autre côté, parce que c'est un système adversarial.
Oui.
Disons que toute personne peut porter plainte contre un avocat, que ce soit votre avocat ou l'avocat de votre adversaire.
D'accord.
Alors, si vous avez des doutes ou si vous avez des plaintes à propos du comportement de votre avocat, alors là, ce que vous devriez faire, c'est que vous pouvez porter plainte et la façon de porter plainte, c'est d'aller au site web du barreau de oui. la Colombie-Britannique.
Du moment qu'on a justement une plainte à formuler, c'est l'adresse à consulter. Et là, il y a un formulaire ou plutôt un numéro de téléphone. Comment ça fonctionne?
Il y a les deux. Et puis, vous pouvez, premièrement, vous pouvez télécharger la section qui s'appelle comment porter plainte. Et puis, vous allez voir là, vous allez voir là, il y a toutes sortes de titres, de brevets. Et il y a un qui s'appelle Complaints and Discipline. Alors là, c'est la section que vous allez reviser pour voir comment porter plainte. Vous allez cliquer là-dessus et puis vous allez voir qu'il y a un sujet qui s'appelle complaint ou plainte. Et vous cliquez sur complaint et là, on vous donne tous les renseignements qu'il vous faut. Comment porter plainte? Comment apprendre la juridiction que le barreau a pour commencer une enquête? Et quoi faire si vous croyez que votre avocat a volé de l'argent? Et comment vérifier l'histoire de discipline de votre avocat, s'il y en a eu.
D'accord.
Il y en a des avocats pour qui la discipline a été imposée.
Oui, je comprends. Ils ont eu des mesures de discipline imposées contre eux suite à des manquements ou des agissements qui étaient contraires à l'éthique. Et donc, ça apparaît dans le dossier du site web.
C'est ça.
Formidable.
C'est ça. Vous pouvez faire des recherches pour en savoir plus.
D'accord.
Alors, chaque année, on parlait tantôt à propos du nombre de plaintes qui sont portées.
Oui.
Chaque année, il y a à peu près 1200 plaintes. Et puis, représente vraiment... Pardon?
C'est beaucoup?
C'est pas beaucoup parce que
non.
Chaque avocat, chaque année, tous les avocats, ils sont en train de gérer des milliers de dossiers chaque année.
Oui, bien sûr.
Alors, c'est pas vraiment beaucoup, hein.
D'accord. C'est vrai que vous mettez en perspective l'ensemble de la province avec la multiplication des dossiers.
Oui. Et en plus, il faut se souvenir que beaucoup de ces plaintes sont vraiment des plaintes où les clients sont vraiment mal contents du résultat. Alors, et c'est pas la faute de l'avocat
non.
que le juge a décidé que l'accusé est coupable. Et en plus, quelques-uns quelques-unes de ces plaintes sont des plaintes portées contre l'avocat de l'adversaire.
D'accord.
Alors, sont pas tout, sont, toutes ces plaintes sont pas portées contre votre propre avocat.
Bon. Mais c'est possible qu'un avocat fasse mal son travail et conséquemment que le justiciable reçoive une condamnation non méritée.
C'est une très bon, un très bon point parce que ça arrive de temps en temps.
Oui.
Et puis, si ça arrive, on peut porter plainte, bien sûr, et on peut aussi porter appel à la cour de, à la cour d'appel. Alors, il y a deux mesures qu'on peut prendre. Et puis, il y a des moyens pour porter plainte contre l'avocat et pour commencer un appel pour renverser le jugement.
Oui. En prenant un autre avocat, d'ailleurs.
Bien sûr.
Forcément.
Bien sûr.
Oui. Est-ce que la...
On ne peut pas faire confiance à l'avocat qui vous a pas bien servi.
Est-ce que le comité à la Law Society est impartial?
Oui.
Est-ce qu'il a une bonne réputation? Est-ce qu'il est, il est véritablement là pour servir le bien public sans,
oui.
Sans prendre parti pour les avocats?
Ah, c'est une bonne question. Parce que selon le l'acte, c'est selon le l'acte qui s'appelle Legal Profession Act, ça c'est la loi qui nous permet d'agir en tant qu'avocat, qui nous permet de servir le public. Le barreau de la Colombie a comme mandat principal d'assurer la protection du public. Alors, c'est ça le but de cette loi, et non pas d'assurer l'emploi ou la protection de l'avocat.
J'imagine qu'il y a vraiment une équipe qui travaille à temps plein à la Law Society pour traiter les plaintes, puisqu'il y en a 1200 par année. C'est quand
c'est
même un gros, gros travail. Et il y a sûrement
oui.
Toute une branche de cet organisme qui est consacrée à justement au traitement de ces plaintes.
C'est ça, c'est ça. C'est justement exactement.
Oui.
Et puis, il y a toute une équipe qui travaille là-dessus.